sera le deuxième dimanche après l'épiphanie.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, la famille est particulièrement attaquée de nos jours. Et ce n'est pas seulement la société civile qui détruit la famille peu à peu par le divorce, la contraception, l'avortement, le pax, le soi-disant mariage pour tous et toutes les autres horreurs qu'on ne saurait nommer en ce saint lieu. Les attaques contre la famille viennent maintenant même de l'intérieur de l'Église et des plus hautes autorités. Le 18 décembre dernier, le pape a signé un texte prévoyant, je cite, la possibilité de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe. Ce texte s'empresse de dire que ces bénédictions ne doivent pas être confondues avec des bénédictions liturgiques, ni accomplies en même temps que les mariages civils. Mais il ajoute, je cite encore, qu'une telle bénédiction peut trouver sa place dans d'autres contextes, comme la visite d'un sanctuaire, la rencontre avec un prêtre, une prière récitée en groupe, ou lors d'un pèlerinage. Autrement dit, un tel couple pourrait demander une bénédiction en allant à la grotte de Lourdes, en rencontrant un prêtre dans une église, à l'occasion d'un chapelet récité en commun. L'abbé Pagliarami, supérieur de la fraternité Saint-Pilis, a déclaré avec raison: la Sainte Église peut certes bénir n'importe quel individu, même un païen, mais jamais, en aucune manière, elle ne pourra bénir une union en elle-même pécamineuse, sous prétexte d'encourager ce qu'il y aurait de bon en elle. Lorsqu'on bénit un couple, on ne bénit pas des individus isolés, on bénit nécessairement la relation qui les unit. Or, on ne peut pas racheter une réalité intrinsèquement mauvaise et scandaleuse. Un tel encouragement à procéder pastoralement à ces bénédictions conduit dans la pratique inexorablement à l'acceptation systématique de situations incompatibles avec la loi morale, quoi que l'on dise par ailleurs. Nous apprécions tout particulièrement la remarque finale de l'abbé Pagliarami. Il s'agit d'une reddition et d'un asservissement de plus face au monde de la part de la hiérarchie libérale et moderniste qui, depuis le Concile Vatican II, est au service de la révolution à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Oui, mes chers frères, ne l'oublions pas, la hiérarchie catholique actuelle est au service de la révolution, c'est-à-dire de la franc-maçonnerie. Ici, mes bien chers frères, nous voulons vous enseigner la tradition catholique. Or, dans cette question de la famille, nous avons un enseignement très clair de l'Église catholique, celui du pape Léon XIII, qui a institué la fête de la Sainte Famille en 1893. Ce n'est pas si vieux. Résumons le bref Neminem Fugit du 14 juin 1892 par lequel le pape instituait cette fête. Puis nous commenterons brièvement les textes de la Sainte Messe à laquelle vous assistez et ainsi vous pourrez continuer à les méditer. Le pape Léon XIII expose que lorsque Dieu décida de s'incarner pour nous sauver, il voulut le faire dans le cadre d'une famille, divinement constituée, en laquelle tous les hommes puissent contempler l'exemplaire le plus parfait de la société domestique ainsi que de toute vertu et sainteté. Dans cette famille, le soleil de justice, c'est-à-dire Jésus, notre Sauveur, demeura caché 30 ans avec la Sainte Vierge et Saint Joseph, l'homme très saint qui remplissait à l'égard de Jésus la charge paternelle. Ces trois membres de la Sainte Famille ont donné au monde et surtout aux familles chrétiennes les plus beaux exemples d'amour mutuel, de piété envers Dieu et de toutes les vertus domestiques. Je cite Léon XIII, « Les pères de famille trouvent assurément en Joseph un modèle admirable de la vigilance et de la sollicitude paternelle. Les mères ont en la très sainte Vierge, Mère de Dieu, un exemple insigne d'amour, de respect modeste et de la soumission d'une âme de foi parfaite. Les enfants auront au sein des familles, en Jésus soumis à ses parents, un divin exemple d'obéissance qu'ils admireront, honoreront, imiteront. Et le pape continue en expliquant que la Sainte Famille donne aussi des exemples aux personnes riches, à estimer bien moins les richesses que les vertus, et qu'elle enseigne aux pauvres, je cite, à se réjouir du sort qui leur est échu plutôt que de s'en attrister. Leurs labeurs leur sont en effet communs avec la Sainte Famille, ainsi que les soins que leur impose la vie quotidienne. Joseph, lui aussi, dut pourvoir en gagnant son pain à la subsistance des siens, et ce qui est plus admirable encore, des mains divines s'exercèrent elles-mêmes aux travaux d'un art mécanique. Il n'est donc pas très étonnant que les hommes pleins de sagesse, ayant des richesses en abondance, aient voulu y renoncer pour choisir la pauvreté et s'y trouver unis à Jésus, Marie et Joseph. Je n'ai pas fait allusion à la vie religieuse. Puis le pape fait brièvement l'historique du développement de cette dévotion à la Sainte Famille, qui s'est notamment développée au Canada. Ce qui explique les magnifiques exemples donnés par les familles canadiennes au XIXe et dans la première moitié du XXe siècle. Enfin, il termine par cette conclusion. On ne peut rien envisager de plus salutaire et de plus utile aux familles chrétiennes que l'exemple de la Sainte Famille, lequel comprend la perfection et l'ensemble de toutes les vertus domestiques. Implorez ainsi au sein des familles, Jésus, Marie et Joseph leur viendront en aide. Ils y entretiendront la charité, ils régleront les mœurs et en provoqueront les membres à l'imitation de leurs vertus. Leur secours adoucira et rendra supportables les mortelles épreuves qui de tous côtés nous menacent. Les mortelles épreuves qui de tous côtés nous menacent, 1892, que dirait le pape en 2024? Il n'imaginait pas, certainement, une telle situation avec un pape qui encourage des unions dont nous avons parlé. Lisons maintenant les textes de la messe avec quelques explications. À l'introïte, nous avons chanté ce passage du livre des Proverbes. Le Père du juste tressaille d'allégresse. Que ton Père et ta Mère se réjouissent. Le Père du juste et sa Mère qui se réjouissent, c'est Saint Joseph et la Sainte Vierge. Mais c'est aussi chaque mère de famille, quand ils voient leurs enfants devenir justes, c'est-à-dire se sanctifier. Cet introïte nous rappelle que les efforts que font les parents pour élever chrétiennement leurs enfants peuvent leur procurer les plus grandes joies. Dans la collecte, le prêtre a dit: Seigneur Jésus-Christ, qui étant soumis à Marie et à Joseph, avait consacré la vie domestique par des vertus ineffables, faites que grâce au secours de l'un et de l'autre, nous soyons instruits par les exemples de votre sainte famille, et que nous obtenions d'être en sa compagnie pendant l'éternité. Nous nous adressons à notre Seigneur Jésus-Christ, lui demandant d'imiter les vertus ineffables qu'il a pratiquées dans le cadre de la Sainte Famille. Et nous nous appuyons sur l'intercession de la Sainte Vierge et de Saint Joseph, pour que, ayant pratiqué ces vertus, nous puissions les rejoindre dans l'éternité. Nous venons de lire l'épître de Saint Paul aux Colossiens. Faisons quelques brefs commentaires. Saint Paul commence par rappeler que, en tant que chrétiens, nous sommes des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Dieu nous a beaucoup donné. Nous devons à notre tour prouver que nous l'aimons. Comment ? En nous revêtant d'entrailles de miséricorde, dit Saint Paul, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, en nous supportant les uns les autres et nous pardonnant réciproquement si l'un a sujet de se plaindre de l'autre. Comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Cette parole, comme le Seigneur, commande Saint Jean Chrysostome, signifie que non seulement nous devons pardonner, mais pardonner de tout cœur, mais en plus, que nous devons aimer ceux qui nous offensent. Mais surtout, continue Saint Paul, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Les meilleures dispositions ne servent de rien, continue Saint Jean Chrysostome. Elles se dispersent et s'affaiblissent si elles ne sont pas animées par la charité, l'amour de Dieu. Elle est le lien de ce faisceau et produit la réunion de force qui fait toute la perfection. Et que la paix du Christ, continue Saint Paul, à laquelle vous avez été appelés, de manière à former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Bénissons la Providence, dit encore Saint Jean Chrysostome. En cela consiste la reconnaissance. Agir ainsi dans la prospérité, c'est peu. La nature même des choses nous y pousse. Mais le fidèle qui bénit le Seigneur dans l'adversité le comble de joie et gagne la couronne du martyr. Dans le graduel, nous avons chanté. Il est une chose que j'ai demandé au Seigneur, et je la rechercherai uniquement, c'est d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Heureux ceux qui habitent dans votre maison, Seigneur, ils vous loueront dans les siècles des siècles. La maison d'une famille chrétienne doit être la maison du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ doit en être le roi. C'est toute la signification de l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles que nous recommandons de faire, mais qu'il faut ensuite mettre en pratique. L'Alléluia est tiré du prophète Isaïe. Vous êtes vraiment un roi caché, le Dieu d'Israël, le Sauveur. Jésus a vécu une vie cachée à Nazareth. Lui qui était le vrai Dieu, le Sauveur. Jésus doit aussi vivre caché dans les cœurs de chaque membre de la famille. Ce n'est plus moi qui vis, disait Saint Paul, c'est Jésus qui vit en moi. Dans l'Évangile, nous avons entendu le récit de la perte et du recouvrement de Jésus au Temple. Cet Évangile nous montre la piété de la Sainte Famille, qui faisait régulièrement les pèlerinages demandés aux Juifs de leur temps. Il encourage donc les familles chrétiennes à pratiquer en famille, à venir en famille à la messe. Cet évangile rappelle aussi que les enfants sont confiés aux parents pour les aimer et les éduquer, mais les enfants appartiennent d'abord au bon Dieu. Ils doivent être, comme Jésus, aux affaires de leur Père. L'évangile rappelle aussi aux enfants le grand devoir de l'obéissance. Et il descendit avec eux, et il vint à Nazareth, et il leur était soumis. Nous avons eu dans les matines un magnifique commentaire de cet évangile par saint Bernard. Voici quelques extraits. Et il leur était soumis. Qui était soumis? Et à qui? Un Dieu à des hommes. Oui, le Dieu à qui les anges sont soumis, à qui les principautés et les puissances obéissent, était soumis à Marie, et non seulement à Marie, mais aussi à Joseph, à cause de Marie. Homme, apprends à obéir. Terre, apprends à accepter la subordination. Poussière, apprends à te soumettre. L'évangéliste a dit, en parlant de ton Créateur, et il leur était soumis. Il n'est pas douteux que ce soit à Marie et à Joseph. Rougis, cendre orgueilleuse. Un Dieu s'abaisse et toi tu t'élèves. Un Dieu se soumet aux hommes et toi, cherchant à dominer les hommes, tu te mets au-dessus de ton Créateur. L'offertoire rappelle que Saint Joseph et la Sainte Vierge ont montré leur piété et leur obéissance à la loi, non seulement dans l'épisode raconté dans l'Évangile, mais aussi lors de la présentation au Temple, que nous fêterons le 2 février. Voici la secrète. Nous vous offrons, Seigneur, cet hostie de propitiation, avec d'ardentes supplications, afin que nos familles soient fermement établies dans votre paix et votre grâce, en vertu de l'intercession de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et du bienheureux Joseph. Cette secrète rappelle que la messe est la source de toutes les grâces, notamment de la paix dans la famille, et que nous devons y assister en y ajoutant d'ardentes supplications et en nous appuyant sur l'intercession de la Sainte Vierge et du bienheureux Joseph. Voici la communion. Et il descendit avec eux, et il vint à Nazareth, et il leur était soumis. Pendant que nous revenons à notre place après la Sainte Communion, nous entendrons les chantres nous rappeler cette phrase. Jésus descendit, Jésus leur était soumis. Demandons à Jésus dans notre action de grâce l'humilité et l'obéissance. Enfin, la post-communion nous fait demander « Faites, Seigneur Jésus, que ceux que vous avez restaurés au moyen d'un sacrement tout céleste persévèrent dans l'imitation des exemples de votre sainte famille, afin que, à l'heure de notre mort, la glorieuse Vierge, votre mère, vienne à notre rencontre avec le bienheureux Joseph, et que nous soyons trouvés dignes d'être reçus par vous dans votre demeure éternelle. » Cette prière finale est occasion de constater à nouveau l'opposition entre l'enseignement de la tradition et celui du pape actuel. Léon XIII rappelle que la pratique des vertus chrétiennes, notamment des vertus domestiques, nous obtiendra l'intercession de la Sainte Vierge et de Saint Joseph à l'heure de notre mort et d'être reçu par Jésus à sa droite dans la famille des élus. Le bref du 18 décembre dernier prétend qu'on peut bénir des unions illégitimes. Hélas, ce n'est pas ce que notre Seigneur a dit. Les malheureux qui vivent ainsi, contrairement aux saintes lois du mariage, s'ils ne se convertissent avant leur mort, ils ne seront pas bénis, mais placés à la gauche de Jésus et maudits éternellement. Prions donc Jésus, Marie, Joseph, de suivre leurs exemples, et prions-les aussi de ramener les pasteurs égarés à leur devoir d'enseigner la vertu et non d'encourager le vice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.